sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Apparus pour la première fois en 2010, ils sont déjà au nombre de 5 en Allemagne. Des instituts universitaires de théologie islamique qui, comme leurs grands frères catholiques et protestants, ont pour mission de promouvoir les recherches sur la religion. L'objectif est à la fois de former des enseignants en religion musulmane pour les écoles, mais aussi des théologiens capables d'élaborer une théologie musulmane allemande ou européenne. Une manière aussi de contrer la montée de l'AFD, le parti d'extrême droite ouvertement islamophobe. Julien Méchossi s'est rendu dans l'un de ces instituts à Osnabrück, dans le centre de l'Allemagne.
Zone piétonne d'Osnabrück, en centre-ville, avec ses magasins et ses terrasses de café ensoleillées. C'est ici que se trouve l'institut dont Çoskun Salam est l'un des responsables.
Bienvenue dans les locaux de notre institut de théologie islamique. Nous sommes installés ici en plein centre-ville d'Osnabrück depuis 2012, un emplacement qui est un symbole fort au cœur de la ville et à deux pas de l'université à laquelle nous sommes rattachés.
Si la rentrée universitaire n'est programmée que la semaine prochaine, quelques étudiants parmi les 450 inscrits sont pourtant déjà présents et se préparent à cette nouvelle année. Martin Amin Kaminski s'est converti à l'islam il y a 7 ans et il s'apprête à entamer l'écriture de son mémoire de master.
Rien que le fait que cet institut existe, c'est un grand pas en avant. Nous sommes reconnus par l'État. Les diplômes obtenus ici ont la même valeur que ceux d'autres universités. On ressort d'ici avec un bachelor, un master. Tout cela est extrêmement important pour lutter contre la xénophobie et l'islamophobie. C'est un endroit ouvert à tous, qui nous permet de nous présenter au public, de faire connaître notre religion et donc d'être moins étrangers au sein de cette société.
Une ouverture plus que jamais nécessaire dans un pays où, selon un récent sondage, près de la moitié de la population affirme que l'islam n'y a pas sa place. Créé il y a 5 ans, l'institut propose 2 cursus, un de théologie et un autre pour se préparer à l'enseignement de la religion dans les écoles. D'origine albanaise, Gafour Mousliou a grandi à Hambourg. Après une carrière réussie dans une entreprise internationale de logistique, il a décidé de reprendre ses études pour devenir professeur de religion islamique. Il vient de faire un stage au sein d'un établissement scolaire de la région.
Un élève nous a demandé, à l'enseignante et à moi, pourquoi, en tant que musulman, il n'avait pas le droit de se rendre dans une église. Il avait peut-être 12 ou 13 ans. Bien sûr que c'est faux et qu'il a le droit, en tant que musulman, de rentrer dans une église. Mais voilà, quelqu'un lui a dit ça, c'est resté dans un coin de sa tête comme un interdit dicté par sa religion, l'islam. Et c'est ça le cœur du problème. Quel est le véritable islam et arrêter de donner la parole à des gens qui n'en savent absolument rien.
Gafour Mousliou soulève également un autre problème, celui de l'influence toujours plus grande de la Turquie qui, via des organismes officiels, finance la construction de mosquées et envoie des imams qui ne parlent pas allemand. Les instituts comme celui d'Osnabrück compte également pour mission de former des imams germanophones imprégnés de la culture académique allemande.
Imaginez que vous ayez un imam qui prêche en allemand. Ça permettrait aux citoyens non musulmans de se rendre à la mosquée et de confronter leurs préjugés à la réalité. C'est quelque chose que la société exige de plus en plus et qui est un objectif que nous devons d'atteindre en tant que musulmans. Est-ce que les Allemands vont accepter cette main tendue? Je ne sais pas, mais ça serait un premier pas vers plus de vivre ensemble, vers plus de tolérance.
Enseignants, chercheurs, imams, mais aussi aumôniers, les études de théologie islamique offrent de nombreux débouchés. Les étudiants apprennent également à différencier les sources islamiques dans une religion souvent pointée du doigt en Occident pour son absence d'autorité centrale. Une approche absolument nécessaire, selon Martin Amin Kaminski.
L'un des plus grands problèmes pour les musulmans est de trouver la bonne source d'information. Beaucoup utilisent Internet et il devient rapidement très difficile de faire le tri entre les sources sérieuses et les autres. La littérature islamique est aussi un problème. Nombre d'auteurs intitulent leurs livres « Le véritable islam » ou encore « L'islam traditionnel » sans effectuer de vrai travail scientifique de fond. Leurs ouvrages ne sont que leurs propres interprétations et ils omettent volontairement d'en informer leurs lecteurs.
traditionnelle islam und die Menschen können sich unterscheiden.
Martin sait déjà sur quoi il veut écrire son mémoire, le rôle que peuvent et doivent jouer les imams dans le débat sur l'intégration. Comme lui, ils sont plus de 2000 étudiants dans toute l'Allemagne à avoir opté pour un tel cursus, et même les universités les plus prestigieuses du pays s'y mettent, à l'image de l'université Humboldt de Berlin, qui inaugurera son institut de théologie islamique dès l'année prochaine.
Le débat sur l'intégration, il existe différemment dans les républiques d'Asie centrale et du Caucase, où toutes les religions ont été bridées par des décennies de communisme. Depuis, l'islam a retrouvé une grande influence dans les sociétés de ces anciennes républiques soviétiques. Mais que ce soit en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan ou encore au Tadjikistan, les expressions de l'islam ne sont pas les mêmes. Pour le chercheur Behram Balchi, qui a rencontré Étienne Bouche à Moscou, les influences étrangères sont multiples, notamment turques.
Il faut rappeler que 1991, c'est le moment où il y a un contact, une interaction entre l'islam local et l'islam de l'étranger, parce que jusqu'à l'Union soviétique était fermé. Et si vous voulez, d'une manière un peu schématique, il y a quatre pays importants qui vont apporter leur influence, leur façon de gérer l'islam à l'Asie centrale et le Caucase. Il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a l'Arabie saoudite au sens, disons, l'influence arabe, et aussi l'influence qui vient de l'Asie du Sud, qu'on appelle indo-pakistanaise. Et effectivement, la Turquie a été un des acteurs les plus influents en matière d'islam en Asie centrale. C'est un paradoxe, parce qu'on imagine la Turquie un pays séculier, laïque. La Turquie, un peu par pragmatisme, a aussi utilisé l'islam pour avoir une certaine influence. Dans les républiques d'Asie centrale, il y a une certaine proximité entre elles en matière de langue, d'ethnie, de religion, de passé. Et de ce fait, on peut dire que l'islam a été un des vecteurs d'influence de l'influence de la Turquie dans ces pays-là.
Un islam radical se développe aujourd'hui en Asie centrale. Les experts relèvent la présence de combattants centra-asiatiques en Syrie. Mais le recrutement ne se fait pas forcément dans leur pays d'origine.
Effectivement, il y a deux moments forts d'islamisme radical en Asie centrale. D'abord, c'était juste après l'Union soviétique. Donc, il y a un mouvement radical ouzbek qui est né dans la vallée de Fergana, qui s'est développé au Tadjikistan à la faveur de la guerre civile. Ensuite, il s'est exporté en Afghanistan, il s'est djihadisé, il s'est radicalisé avec les talibans, avec Al-Qaïda, en faisant la guerre contre l'armée pakistanaise, etc. Et le deuxième moment de djihadisme, il commence avec l'avènement de Daesh en Syrie, en Irak. Et là, en fait, le développement de foyers radicalistes au Moyen-Orient a attiré des gens du monde entier, y compris d'Asie centrale. Certains djihadistes qui étaient d'Asie centrale partis en Afghanistan sont allés rejoindre le djihad en Syrie. Mais il y a une autre catégorie, et c'est la plus difficile à expliquer. Ce sont des combattants qui sont d'Asie centrale, mais ne sont pas partis directement d'Asie centrale, ils sont partis par une voie un peu migratoire. Vous savez qu'en Russie, il y a quand même beaucoup de travailleurs migrants d'Asie centrale. Et parmi eux, vous avez certains qui ont été un peu marginalisés, dans des positions de situation sociale pas toujours très favorisées. De ce fait, il y a eu un recrutement dans les rangs de Daesh à partir de ces gens-là. Je tiens à l'expliquer, le recrutement se fait non pas dans des madrassas ou dans des mosquées radicalisées comme on pourrait l'imaginer. En fait, non, le recrutement se fait en ligne, sur Internet. Et effectivement, une bonne partie des combattants originaires des centrales qu'on a trouvés dans les rangs de Daesh et d'Al-Qaïda en Syrie et en Irak sont partis de Russie et ils avaient quitté le foyer d'origine des centrales bien avant, et après avoir passé plusieurs années en Russie, ils se sont retrouvés sur le champ du djihad au Moyen-Orient.
Le chercheur Behram Balchi de l'Institut français d'études anatoliennes basé à Istanbul, il est l'auteur notamment du Renouveau de l'islam en Asie centrale et dans le Caucase et s'est publié aux éditions du CNRS en 2017. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Catherine.
Alors, c'est avec vous qu'on va feuilleter les pages de Courrier International sur l'actualité européenne. Et on commence par une décision polémique faite par une mairie d'extrême droite dans le nord de l'Italie.
Et oui, depuis cette année, dans les écoles de Lodi, au sud de Milan, les règles ont changé. Pour bénéficier d'un tarif réduit pour la cantine et le ramassage scolaire, il ne suffit plus de fournir une attestation de quotient familial. Et non, désormais, les familles issues d'un pays hors de l'Union européenne doivent aussi fournir la preuve qu'elles ne possèdent pas de biens dans leur pays d'origine. Et c'est une décision qui a été prise en effet par la mairie tenue par la Ligue, formation d'extrême droite, et une décision qui n'a ni été soutenue ni désavouée par le chef du parti et ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. En fait, pour vous expliquer, à défaut de documents, l'accès à la cantine passe de 1,50€ par enfant à 5€. Résultat, rapporte la Stampa, quelques 200 familles se retrouvent exclues des services de cantine et de ramassage scolaire, et de jeunes enfants sont invités, au lieu d'aller à la cantine, cantine à manger dans une autre pièce les sandwichs préparés par leurs parents. En réaction, une mobilisation s'est organisée pour demander une modification du règlement et une collecte a été lancée pour combler la différence. C'est au dimanche 14 octobre, 60 000 euros avaient été collectés. C'est suffisant pour garantir un accès à la cantine et au bus scolaire jusqu'à la fin décembre. Et d'ici là, précise le Corriere della Sera, le tribunal administratif pourrait s'être prononcé sur une demande d'annulation du règlement qui a été présentée ces derniers jours.
Alors on passe à une actualité un peu plus solidaire, hein, Sacha. À Vienne, en Autriche, la création à venir d'un centre pour lutter contre les inégalités de destin.
C'est un peu l'histoire et le symbole de la métamorphose d'un quartier. C'était, comme dans beaucoup de villes, un quartier derrière la gare, ouvrier et pauvre. Mais depuis la construction du nouvel Bahnhof en allemand, non loin de là, les enfilades de logements monotones ont laissé la place à de coquets immeubles et auxquels va s'ajouter dans quelques mois un nouveau bâtiment. C'est une maison, en fait, de l'avenir et de l'innovation sociale. À l'origine de l'initiative, on retrouve un médecin, des chefs d'entreprise et des artistes. En résumé, en fait, c'est une initiative privée. Sur 5000 mètres carrés de surface utile va naître un lieu comme on n'en voit que trop rarement dans ce monde où se creusent les inégalités, insiste le magazine de centre-gauche Profil. Le rez-de-chaussée accueillera un centre de jour pour les femmes sans domicile fixe et un espace de savoir offrira un accès à l'éducation aux enfants en situation de précarité. Même si certains mécènes sont proches des sociaux-démocrates, le projet se veut strictement neutre au plan politique et les plans du bâtiment ont déjà été déposés. Et le chantier pourra démarrer au deuxième trimestre de 2019 pour une ouverture prévue à la fin de 2020.
Courrier a également sélectionné la presse espagnole qui décrit les difficultés pour le gouvernement socialiste d'exhumer les restes de l'ancien dictateur Franco.
Oui, Francisco Franco est toujours enterré dans la basilique du complexe monumental du Valle de los Caídos, érigé à la gloire du franquisme et qui est situé à 50 km de Madrid. Pour rappel, en fait, fin août, le gouvernement avait approuvé un décret-loi d'urgence pour déplacer le corps afin d'en finir, je cite, avec un symbole qui menace de séparer les Espagnols. Reste qu'il revient désormais à la famille de Franco et plus précisément à ses 7 petits-enfants de choisir le lieu où l'ex-dictateur sera inhumé. Et celle-ci a exprimé son souhait de le voir transféré dans la cathédrale de l'Almudena à Madrid. C'est un peu en fait comme si Pétain était enterré à Notre-Dame de Paris. Le gouvernement tente donc d'obtenir le soutien de l'église qui elle-même est un peu embarrassée pour qu'elle l'aide à convaincre la famille de Franco que celui-ci soit enterré dans un lieu un peu plus discret. Et pour le moment, c'est sans succès.
Alors on termine, hein, Sacha, avec le dossier de la semaine dans l'hebdomadaire. C'est en une, hein, Édouard Philippe qui pousse Emmanuel Macron au volant d'une de chevaux avec ce titre. Est-ce que ça repart ?
Absolument, la presse internationale et notamment européenne est un peu circonspecte. Avec la nouvelle équipe gouvernementale nommée mardi, le président français entend certes redonner une impulsion à son action politique. Mais pour Politico, le président manager, comme l'appelle cette publication basée à Bruxelles, a un peu perdu le contrôle avec les démissions de 3 ministres ces 2 derniers mois. Et dans la foulée, comme le note le Temps, en Suisse, l'annonce sans cesse repoussée du remaniement ministériel a constitué un signe assez flagrant du fossé qui se creuse entre Macron et les médias français au détriment du citoyen. Mais malgré cette mauvaise passe pour Der Spiegel en Allemagne, le président français reste le chef de file des pro-européens dans la bataille qui les opposera aux eurosceptiques, et d'ailleurs il est un petit peu seul, lors des élections européennes qui se tiendront au printemps prochain.
Voilà des articles à lire dans Courrier International de cette semaine. Merci Sacha Mitchell.
Merci Catherine, à bientôt.
À bientôt. Allez, un peu d'humour canin, même si le temps presse. Un leitmotiv répété encore une fois hier à l'issue du Conseil européen de Bruxelles sur le Brexit. Officiellement, la Grande-Bretagne sortira de l'UE le 29 mars prochain. Un accord doit donc absolument être conclu avant la fin de l'année. Ce n'est pas l'avis de tous les Britanniques. La question divise toujours. Certains veulent un second référendum pour tout arrêter. C'est valable pour les humains, mais aussi pour leurs compagnons à quatre pattes. Et oui, tout est possible chez nos amis anglais, comme nous le détaille Marie Billon.
l'occasion.
Ils étaient quelques centaines de toutous à défiler près du Parlement à Londres début octobre. Des caniches, des bergers allemands, des bulldogs, peu importe la race, ils avaient tous en commun de vouloir faire leurs besoins sur le Brexit. Finis de ronger leur os, les chiens britanniques ont décidé de prendre leur maître par le bout de la laisse et d'aller dans la rue pour réclamer un WOUF référendum. Un WAF référendum en français donc. Des chiens qui ont des opinions politiques, direz-vous, les Britanniques sont-ils définitivement devenus fous ? Alors, avouons-le, il est probable que cette manifestation ait été initiée par les propriétaires. Les chiens, après tout, n'ont pas le droit de vote, même s'ils semblent prêts à mordre les jarrets des eurosceptiques. Des autocollants à bas le Brexit à poser sur le poil, des bandanas européens noués autour du cou et autres messages anti-Brexit attachés sur le dos de nos meilleurs amis sont aussi l'œuvre de leur maître. Car les amoureux des chats, chiens et autres furets aux cochons d'Inde s'inquiètent de la sortie de l'UE. S'il n'y a pas d'accord, les animaux de compagnie devraient passer 4 jours en quarantaine quand ils traversent la Manche. Les inquiétudes sont en fait multiples, sur le prix de la nourriture provenant souvent d'Europe, sur le fait qu'un grand nombre de vétérinaires sont des ressortissants européens. Enfin, quand les temps sont durs, les animaux sont les premiers à en faire les frais. Les refuges commencent donc à s'inquiéter que les chiens ou les chats soient abandonnés si le pays entre en récession, comme certains économistes le prédisent. Bref, l'appel est lancé et le nonos, on l'a bien compris, serait de renvoyer le Brexit à la niche.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, on salue cette semaine avec vous le retour de la célèbre suédoise Nene Cherry.
Oui, Nene Cherry qui publie aujourd'hui son nouvel album, le 5e seulement en 30 ans d'une carrière marquée par quelques jolis tubes. On se souvient notamment de son duo avec Youssou N'Dour au milieu des années 90. Un énorme succès sur lequel Nene Cherry a pourtant refusé de capitaliser en laissant près de 18 années s'écouler sans publier d'album sous son nom. 18 années pendant lesquelles elle multiplie les collaborations. Et c'est en 2014 que Nene Cherry revient aux affaires avec un album solo, Blank Project, produit par Fortet, grand nom de la musique électronique anglaise. Elle renouvelle aujourd'hui cette collaboration avec Broken Politics, un album engagé et en tout point sublime, enregistré en 5 jours seulement, avec notamment un joli travail sur les percussions.
You can sleep, walk back and find me. Another symphony in session. Walk in today for all the people. Watch the smoke rise behind me.
Cette semaine avec Black Monday, le trip-hop élégant de Nene Cherry, son grand retour. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et puis sur notre page Facebook. Ne ratez pas les photos des petits chiens contre le Brexit. Give it all away.
dressing up clean, me looking sharp, coat hanger, wire, wear me out, hanging out, bleeding out, soul searching.